Chères auditrices, chers auditeurs de Shalom Bourgogne, Thierry Guyon, nous sommes dans votre émission Histoire, Mémoire et Transmission et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir le professeur Dimitri Vouzel, enseignant d'histoire-géographie au lycée Charles de Gaulle et par ailleurs chercheur, en particulier dans des domaines qui on voit avoir avec la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous le rencontrons à propos des pavés de mémoire pour la deuxième fois. Donc en 2025, de nouveaux pavés de mémoire seront mis en place à Dijon, dans la ville de Dijon. Et je demande tout de suite à M. Vouzel de nous préciser, de nous rappeler ce que sont ces pavés de mémoire en lien avec la Shoah.
Oui, donc c'est la seconde fois, puisqu'il y a déjà eu une première fois l'année dernière, donc en 2024, au printemps. 11 pavés de mémoire avaient été posés donc dans différentes rues de Dijon. Donc chacun d'entre eux renvoie à un déporté. Donc l'idée du pavé, c'est de noter la date de naissance, le prénom, le nom de la personne, sa date de naissance, la date de son arrestation, également la date de son décès, si donc elle est connue. Et donc l'année dernière, les 11 premiers concernaient en fait les 11 premiers Dijonnais qui avaient été arrêtés le 26 février 1942, et déportés pour la plupart en juin 1942. Ceux de cette année, eux, vont concerner les Dijonnais, et cette fois-ci aussi des femmes, donc des Dijonnaises, qui ont été arrêtées lors des rafles, alors celle de juillet 1942, celle du 9 octobre 1942, plus également des arrestations individuelles de 1943. Et donc cette année, c'est 20 pavés qui ont déjà été posés, et qui seront donc inaugurés, par la municipalité, et notamment Mme Kanders, maire de Dijon, le 14 mai prochain. Et donc le rendez-vous est à 11h, rue Buffon.
Nous rappeler peut-être comment se constitue et se prépare cet événement très important.
Alors donc ça a été adossé, comme l'année dernière, ça a été adossé à un travail scolaire, un travail pédagogique. Donc des élèves ont travaillé sur la rafle de juillet 1942, ils ont travaillé également sur celle d'octobre, et donc ils ont eu l'occasion de reconstituer les biographies des différentes personnes qui ont donc été arrêtées, hein, soit le 13 juillet, soit le 9 octobre 1942. Et donc ça a été un travail dans les archives, en particulier les dossiers de déportation, qui sont donc détenus à la division des archives des victimes des conflits contemporains à Caen.
Donc ce travail, c'est des élèves du lycée Charles de Gaulle essentiellement?
Oui, donc ce sont des élèves de première et de terminale qui ont donc travaillé, qui ont eu l'occasion donc de redonner et de retrouver des informations, parfois des familles, concernant donc les 20 personnes dont le pavé sera posé donc en mai, enfin d'ici deux semaines en fait maintenant. Je peux donner peut-être quelques détails concernant la différence avec l'année dernière. L'année dernière, c'était que des hommes. Donc c'était que des hommes, 11 hommes, de 20 ans jusqu'à plus de 60 ans. Là, sur les 20, il y a 12 femmes et 8 hommes. Donc c'est déjà, ça montre que la Shoah concerne toutes sortes de personnes. La deuxième particularité, c'est que l'année dernière, sur les 11 hommes, 10 étaient français. Plusieurs étaient nés à Dijon, d'ailleurs. Là, ce sont quasiment, presque exclusivement, alors pas 100%, parce qu'il y a quelques contre-exemples, mais presque tous sont des étrangers. Donc certains sont nés en Allemagne. Nous avons Idel Lebansard qui lui est roumain, Manuel Lev lui est russe, nous avons également des Polonais, nous avons donc aussi des familles. C'est aussi la différence avec l'année dernière, où l'année dernière nous n'avions que des hommes individuels. Là nous avons des couples avec parfois également leurs enfants. Donc cette année, devant certaines adresses dijonnaises, par exemple rue de la Charmette, devant le 50 rue de la Charmette, il y aura 3 pavés qui seront posés, donc les parents et la fille. Un autre exemple aussi, rue Fournerat, il y aura les parents, donc Chaim Rodnik, Edel Rodnik, et leur fille Hélène Rodnik. Donc ça va donner encore plus de visibilité, puisque c'était l'objectif en fait de la pose de ces pavés. Le constat de départ, je le rappelle, c'est que la mémoire de la résistance, elle existe dans Dijon. Il y a beaucoup de plaques qui sont posées dans de nombreuses rues qui rappellent l'héroïsme des résistants. L'héroïsme remarquable, hein, de 1941 jusqu'à la libération. Par contre, des traces dans l'espace public en rapport avec la Shoah, il n'y en avait quasiment aucune, si ce n'est la plaque à la gare de Dijon, et puis la plaque à l'école Paulette-Lévy. Donc l'idée de ces pavés, c'est de remettre la Shoah au cœur de la cité, de comprendre que dans tout Dijon, puisque là ça va concerner le centre-ville, hein, il y aura un pavé qui sera posé par exemple rue de la Chouette, il y en aura un rue Jean-Jacques Rousseau, mais il y en aura également dans le quartier Charmette, il y en aura aussi donc, rue Paul Thénard, donc dans le quartier Montchappet. Donc montrer que tous les quartiers, avenue Victor Hugo également, donc tous les quartiers de Dijon ont été concernés par les arrestations à partir de 1942 jusqu'en 1944.
Alors avant que vous ne reveniez sur quelques cas, voire de nombreuses familles, c'est important, ce qui compte c'est quand même les personnes, c'est pour ça que ces pavés de mémoire sont mis en place avec vos travaux. Rappelez-nous d'où viennent ces populations et pourquoi elles ont choisi la France. Pourquoi elles se retrouvent notamment à Dijon ?
Alors, il y en a un certain nombre d'entre eux qui sont venus plutôt tôt, dès les années 1920. Donc, en fait, ils viennent en France parce que, pour eux, c'est la patrie des droits de l'homme. C'est le cas, par exemple, d'Héronique, qui donne d'ailleurs naissance à une fille en 1930. Donc, qui, elle, est française dès sa naissance. D'autres sont venus parce qu'ils se sont réfugiés, en fait. Hein. Ils se sont réfugiés en France à partir de 1933. Donc il fuit l'Allemagne, il fuit les persécutions nazies. Et puis il y a d'autres également, et il y en a un en particulier qui est très intéressant, qui est Arthur Salm. Donc la famille Salm, eux en fait, donc lui Arthur est un ancien combattant de la Première Guerre mondiale. Il est multidécoré, il a la croix de fer, il a la croix du front, il a la croix de blessé, parce qu'Arthur Salm a été blessé deux fois pendant la Première Guerre mondiale, donc c'est un soldat allemand, donc il a combattu. Donc il a une décoration qui est vraiment valorisée dans l'armée allemande, hein, qui est la croix de fer. Donc il a la croix de fer. Et donc lui, en fait, il est marié avec une Française, qui est née à Sarreguemines, qui est devenue allemande de par son mariage, hein, puisqu'à l'époque, c'est comme cela. Ils ont des jumelles, donc Marlise et Margot. Et eux, en fait, ils vont, en 1939, avoir le désir de partir en Amérique. Donc ils ont leur billet pour prendre le bateau. Ils vont aller à Bordeaux. Et quand ils arrivent à Bordeaux, en fait, c'est le début de la guerre. Donc, ils ne peuvent plus partir. Et ils vont revenir à Dijon parce que ce n'est pas très loin de la frontière. Ils ne peuvent pas revenir dans la zone des armées, donc ils ne peuvent pas revenir vers Sarreguemines, par exemple. Donc, ils vont être à Dijon. Et lui, il va travailler. Donc, lui, il va travailler, faire des petits boulots. Bon, ils habitent avenue du Drapeau, d'ailleurs, à l'époque. Et puis, à un moment donné, quand il y a les premières arrestations, lui, il va cacher sa femme et sa fille. Il va les envoyer à Verdun-sur-le-Doubs. Et lui, il va continuer de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Il va avoir un accident du travail en octobre 1943. Et donc, il va être hospitalisé à l'hôpital général, hein, où il y a la cité de la gastronomie aujourd'hui. Alors, c'est une hospitalisation un petit peu spéciale, puisqu'en fait, il est hospitalisé sous contrainte, hein, parce qu'il est juif. Allemand, en plus étranger. Et donc lui, il est déporté fin 1943. Hein, sa croix de fer, il fera état de sa croix de fer. Hein. Il va faire état de sa croix de fer, mais ça ne va pas le protéger. Sa femme et ses deux petites filles ont survécu. Et donc, il y a quelques années, on avait retrouvé une des jumelles qui était encore en vie, qui habitait Strasbourg. Et on lui avait envoyé, parce qu'il y avait des documents un peu originaux de son père, notamment une lettre qu'il a écrite le 11 novembre 1943, hein, c'est une date assez intéressante sur un plan figuré, où justement il fait état du fait qu'il a fait toute la guerre 14-18, il a été multidécoré et donc il demandait d'être libéré en fait de l'hôpital, ce qu'il n'a pas eu, et donc il est déporté, assassiné à Auschwitz, donc le 22 décembre 1943.
Alors avant de venir à l'organisation de cette journée, peut-être un ou deux autres exemples.
Oui, alors il y a d'autres exemples aussi qui m'intéressent beaucoup. Ils m'intéressent tous en fait, mais si vraiment. Alors par exemple, il y a Idel Lebensart. Donc Idel Lebensart, lui, c'est un Roumain. Donc il est chirurgien-dentiste. Il est marié avec une catholique. Il a deux enfants baptisés catholiques. Et lui, il est extrêmement réputé. Lui, il est à Beaune en fait. Il est à Beaune. Sauf qu'en 1940, quand il y a les lois discriminatoires qui sont prises, il doit céder son cabinet. Il était avec un associé, il doit vendre les parts de son cabinet, donc il perd son emploi, en fait. Hein. Il n'a plus le droit d'exercer, alors qu'il était vraiment réputé hein, sur la plage de Beaune. Hein, il était spécialiste des maladies de la bouche et de la face. Bon. Donc il doit laisser son métier, et ensuite il va aller habiter à côté du magasin de ses beaux-parents, rue Janin. C'est pour ça qu'il est en fait arrêté rue Janin. Et lui, donc, il est arrêté le 9 octobre 1942, parmi les cinq qui sont arrêtés ce jour-là à Dijon. Il va ensuite être déporté à Auschwitz. Et lui, il va survivre. Il va survivre plusieurs mois, en fait, à Auschwitz. Il va mourir, malheureusement, en mars 1943. Donc, il a survécu plusieurs mois, ça nous en avons la certitude. Et ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, sa femme n'est pas arrêtée, parce qu'elle est considérée comme étant arienne, ses deux enfants non plus. J'ai eu l'occasion de retrouver des descendants, des petits-enfants, qui vivent dans le sud de la France, et également en Corse. Et donc, ils m'ont fait état qu'ils avaient le... Parce qu'il a écrit un courrier depuis Auschwitz. On sait qu'il y a des courriers qui ont été écrits. On a imposé aux détenus d'écrire des courriers à leur famille pour leur faire croire que tout se passait bien. Et donc, il a écrit un courrier, sauf que malheureusement, ce courrier, a priori, ils l'ont perdu. Bon. En tout cas, il y a le mansard, il aura son pavé. Et puis, peut-être encore, encore deux, donc encore trois. Il y a Manuel Lev. Alors, Manuel Lev, c'est intéressant, c'est un Russe, donc marié à une Française. Il récupère des bouteilles, en fait. Hein. C'est son métier, récupérer les bouteilles. Bon, puis il vend les bouteilles qu'il a récupérées. Et lui, en fait, pour la petite histoire, il y a une enquête qui va être demandée par la police allemande en 1942 parce qu'il va être suspecté de pratiquer le culte de façon clandestine. Donc il va être suspecté de jouer le rôle de rabbin clandestin. Donc l'enquête ne va pas avoir lieu parce qu'en fait, il est déjà arrêté et déporté. Mais peut-être a-t-il effectivement accordé du prix à la vie spirituelle des juifs qui étaient à Dijon encore à cette époque-là. Un autre exemple, les Blankenberg. Alors Blankenberg, il a eu son pavé. Donc Joseph Blankenberg, c'est un Varsovien, donc il est né à Varsovie. Il a été déporté lui en juin 1942, donc il a été arrêté le 26 février 1942. Donc l'année dernière, il y avait le pavé qui avait été posé pour Joseph Blankenberg. Et sa femme a été arrêtée, elle, en octobre. Donc là, il y aura le pavé pour sa femme. Et il a un de ses enfants qui, lui, a été déporté en février 1944. Enfin, arrêté en février et déporté en mars 1944. Donc le pavé de son fils va aussi être posé, c'est Wolf. Wolf Blankenberg, parce que l'idée, c'était que cette fois-ci, on fait toute la famille. Quoi. Même si là, j'ai expliqué, hein, on ne fait pas la rafle de février 1944. Mais pour au moins deux personnes, pour ne pas séparer les familles, on pose aussi le pavé pour son fils Wolf, qui lui, en 1944, est déporté alors qu'il avait 11 ans. Et puis peut-être des derniers, c'est Steinitz. Alors Steinitz, ils habitaient l'avenue Victor Hugo, donc le haut de l'avenue Victor Hugo, donc une jolie maison, avec un terrain, il y avait à l'époque un poulailler. Alors comme on le sait, parce qu'en fait j'ai retrouvé une nièce qui, elle, avait des photos de l'époque. Et les Steinitz, donc, ils arrêtent Rosa, donc Rosa c'est la maman, ils arrêtent Mireille c'est la fille. Ils vont arrêter également le frère, sauf que, et ça c'est une particularité peut-être qu'on peut mettre en évidence, à Dijon, lorsqu'il y a la rafle de juillet 1942, on n'arrête que les personnes qui ont entre 16 et 45 ans. Son frère avait moins de 16 ans, donc il n'est pas arrêté. Il est confié, en fait, à une assistante sociale. Et le père n'est pas arrêté parce qu'il est déjà parti en zone sud. Le fils aîné n'est pas arrêté parce qu'il est déjà parti en zone sud. Et donc le père et le fils aîné vont ensuite récupérer le jeune frère. Et donc lui, il a aussi survécu et est devenu... un antiquaire réputé sur la place de Paris.
Ouais. Ce qui est important, c'est aussi la démarche de connaissance, la démarche de recherche, oui. Puisqu'aujourd'hui, dans un monde très compliqué avec les réseaux sociaux, les fake news, enfin, je simplifie bien sûr, mais n'empêche que ce travail que vous confiez aux lycéens de recherche, de découverte de la vérité, de découverte des traces, a un rapport avec la vérité historique. Et notamment, actuellement, on voit... sortir beaucoup de choses très riches qui complètent et rendent plus crédibles les critiques qu'on peut faire notamment du gouvernement de Pétain, qui parfois est questionné dans le mauvais sens, mais comment aussi vous contribuez à former ces jeunes à respecter l'histoire, à comprendre l'histoire et à transmettre quelque chose de l'ordre de la vérité pour échapper à des contestations énormes et ignobles des réalités passées.
Alors, vérité, j'ajouterais humanité. Parce que ce qui me motive, et ce qui motive, je pense, les élèves également à s'impliquer dans ce genre de démarche et de projet, c'est que derrière, il y a la reconstitution de parcours. Donc la vérité est associée aussi à l'humanité. J'aime beaucoup dire que les archives, c'est en fait à la fois des traces, c'est vrai, mais les archives, c'est aussi des preuves. Et donc oui, l'archive, c'est l'anti-théorie du complot, en fait. Puisque l'archive, elle... Alors bien sûr, il faut la confronter. Il y a aussi des fausses archives, on est d'accord, il y a des faux, ça existe. Mais c'est pas la majorité du genre. Et donc, l'intérêt pour les élèves, c'est de se rendre compte que, bah oui, ça a bien eu lieu. Et l'intérêt des pavés, c'est aussi de faire comprendre aux Dijonnais, quand ils passeront à côté de ces adresses, que oui, là vivaient des personnes qui ont été arrêtées, qui en 1942, qui en 1943, et qui ensuite ont également été déportées. Donc il y a cette idée qui est pour moi fondamentale, hein, de remettre la Shoah au cœur de la cité. Et la question, bien sûr, n'est pas de faire de la concurrence victimaire non plus, ni de survaloriser une catégorie par rapport à une autre. La question m'a été posée, par exemple, y a-t-il eu à Dijon des Tziganes qui ont été déportés? La réponse, en suite, je dirais, aux connaissances historiques actuelles, parce qu'après tout, l'histoire est aussi quelque chose qui est en mouvement, la réponse aujourd'hui, elle est non. La question, c'est est-ce que des homosexuels ont été déportés depuis Dijon? Là encore, suite aux connaissances historiques actuelles, la réponse, elle est non. Peut-être que parmi ceux-là qui ont été déportés, peut-être qu'il y avait des homosexuels. Mais en tout cas, c'est pas pour ça qu'ils ont été déportés. Ils l'ont été parce qu'ils étaient considérés comme juifs par les autorités allemandes, également par les autorités françaises de l'État français. Qu'est-ce que je vais encore ajouter? Un autre point que je trouve intéressant, c'est que dans cette liste-là, on verra qu'il y a aussi, des Français. Parce qu'il y a aussi l'idée que Pétain a protégé les Juifs français. Alors on a vu que l'année dernière, sur les 11 qui avaient été arrêtés en février 1942, 10 étaient français. Un seul était étranger. Là, c'est vrai qu'il y a 20. Sur les 20, plusieurs sont français. Il y a Fernand Ury, par exemple, qui est français. Vous avez également Hélène Rudnick. Donc ça permet aussi de dégager des vérités effectivement historiques grâce au travail des archives.
Très bien, c'est très important, effectivement. En espérant que ce travail va se continuer. Avant de vous poser une dernière question plus générale, comment se déroulera très sommairement cette journée consacrée au pavé de mémoire?
Alors donc, la municipalité a prévu une inauguration officielle, donc le dévoilement de deux pavés, parce qu'effectivement, il y en a dans toute la ville, donc s'il fallait aller partout, ça prendrait une grosse partie de la journée. Donc il y aura un dévoilement, le premier, qui aura lieu rue Buffon. C'est donc... Léon Israël qui habitait là. Alors lui, c'était un musicien, donc un artiste. C'est intéressant parce que dans la valise, hein, parce qu'il y a aussi l'inventaire dans les archives, il y a l'inventaire des affaires qu'il avait en fait. Et bien, il avait des costumes en fait, il avait des cravates, des costumes de scène. Donc ça sera le premier pavé, ce sera 11h, donc 11 rue Buffon, c'est facile à se rappeler. Il y aura un deuxième pavé qui sera également dévoilé, c'est donc rue de la Chouette. Puisque là aussi, il y aura donc désormais un pavé. C'est le pavé de Hertha Kollmann, qui, elle, donc, habitait 26 rue de la Chouette. Et ensuite, il est prévu donc, un discours de Madame Conders dans la salle des États. Donc, si on calcule de la rue Buffon à la rue de la Chouette, c'est pas très loin. Ensuite, la salle des États, ce sera vers 11h30 à peu près.
Bien, concernant, vous avez évoqué tout à l'heure les théories du complot, l'importance de la recherche historique, l'importance de la formation des jeunes lycéens. Nous sommes dans une période où meurent progressivement les derniers survivants, notamment de la Shoah, des gens qui ont vécu cette terrible période. Comment vous voyez l'avenir pour continuer à porter ces vérités, cette histoire, et qu'elles puissent contribuer, puisqu'on sent que c'est quelque chose qui vous importe, à prémunir l'avenir du pire, notamment pour le peuple juif?
Alors c'est une question difficile, parce qu'en fait, je suis partagé en réalité. C'est indispensable, j'espère et je pense, parce qu'il y a des élèves avec qui je suis encore en contact, que tous ces travaux les ont sensibilisés et les amèneraient à se lever, je pense, pour apporter leur aide humaine, s'il y avait un nouveau... non pas la même chose, puisqu'il n'y a jamais la même chose, mais des éléments semblables en partie à ce qui a eu lieu sous l'occupation. Maintenant, la difficulté, c'est que tout ça demande du temps, donc il faut être conscient, hein, c'est pas en un claquement de doigts, c'est pas non plus avec des injonctions, c'est pas uniquement en mettant en avant comme un étendard le devoir de mémoire, hein, dont on parle souvent lors des inaugurations, dans les discours, hein, on entend toujours presque ce mantra, le devoir de mémoire. Bien sûr, la mémoire est fondamentale, mais je préfère qu'on parle de devoir d'histoire, de devoir de connaissance, et si on fait un devoir de connaissance et un devoir d'histoire, là, les élèves pourront effectivement être touchés au plus profond d'eux-mêmes. Si on fait juste une injonction au devoir de mémoire, sans approfondissement, malheureusement, c'est comme arroser un peu dans le désert. C'est une image un peu simple, mais je pense qu'elle est évocatrice. Donc, il faut continuer. Une petite anecdote, l'année dernière, quand il y a eu l'inauguration, un monsieur m'avait interpellé dans la rue, donc rue du Bourg, hein, c'est où il y avait le premier pavé qui était posé pour Raphaël Hamon. Il m'avait dit, oui, mais en fait, là, il n'y a que quelques centaines de personnes. Vous ne touchez que quelques dizaines d'élèves, ce qui est vrai. Pourquoi vous n'êtes pas sur un compte TikTok, un compte Instagram bon. Alors, j'ai répondu une chose fort simple. C'est que je n'avais pas envie forcément d'attirer de la haine sur les comptes et que ce n'était pas mon but. Je préférais faire un travail d'artisan plutôt qu'un travail, de masse sur... qui est moins garanti au niveau des résultats. Donc, et ce travail d'artisan, parfois, il a aussi des résultats importants. Je donnerai un exemple, le film de cette année ou celui de l'année dernière, fait par les élèves dans le cadre de ce projet, il a eu plus de 1200 vues. Alors, ce n'est pas beaucoup, c'est sûr, par rapport à des milliers de vues, des millions de vues parfois, mais c'est déjà beaucoup quand même. Et puis j'ai d'autres collègues qui font aussi le même genre de travail dans d'autres lieux. Donc les petits artisans, les uns à côté des autres, peuvent à la fin faire un travail, je pense, assez conséquent.
On peut rappeler que les podcasts qui ont été fabriqués avec vous dans le cadre de Shalom Bourgogne ont été beaucoup vus, beaucoup plus que nous le pensions. Alors pour aller encore à peine plus loin, avant de conclure, vous avez parlé des concurrences victimaires. C'est un des véritables enjeux. Le hasard de la vie fait que j'ai connu beaucoup de jeunes MNA, vous savez ce qu'on appelle des mineurs non accompagnés, qui viennent essentiellement d'Afrique noire ou d'Afghanistan pour ce qui est de notre grande région. On a parfois eu des discussions tout à fait difficiles, là c'était dans un cadre professionnel, parce que ces jeunes ignorent l'histoire, notre histoire, l'histoire de l'Europe et l'histoire de la France, mais sont porteurs aussi d'un certain nombre de préjugés ou de connaissances concernant la propre histoire de leur propre pays et de leurs grands-parents. Et comment faire pour traiter les différentes mémoires? Quels travaux peuvent être faits pour qu'on sorte d'une situation qui est extrêmement pénible, voire dangereuse, de concurrence qui est portée sur les réseaux sociaux, notamment par un certain nombre d'acteurs qui souhaitent évidemment créer des tensions et des conflits?
Alors, déjà, l'éducation nationale, dans les programmes, si on les suit, on n'aborde pas que la Shoah. On aborde tous les génocides du XXe siècle. Donc, par exemple, en première, on va aborder le génocide des Arméniens. En terminale, on va aborder le génocide aussi des Chinti et des Roms, hein, qu'on dénomme de façon plus générique le génocide des Tziganes. On va aborder également le génocide des Tutsis, au Rwanda, en 1994. On peut aussi, si on le souhaite, alors, sachant que là, le terme génocide est discuté, aborder la question de ce qui s'est passé sous la dictature des Khmers Rouges au Cambodge dans les années 1970. Et lorsqu'on aborde ces différents drames historiques, on fait bien comprendre aux élèves que la question n'est pas de classer les génocides en fonction de celui qui est le plus important. Il est aussi intéressant parfois de les comparer entre eux, parce qu'ils ont les mêmes... Alors bien sûr, ce n'est pas les mêmes victimes, c'est pas les mêmes acteurs, c'est pas les mêmes génocidaires, mais ils ont les mêmes processus. Et donc je pense que l'éducation permet, encore faut-il qu'il y en ait. Et par rapport à ce que vous évoquez, les mineurs isolés, peut-être que eux, parfois, malheureusement, vont être à côté d'un certain nombre de cursus d'éducation. Il faut dire les choses aussi, ils sont pas forcément suivis aussi bien, aussi longtemps. Mais je pense que c'est la meilleure solution. Et puis de revenir également sur le sens des mots. Aujourd'hui, on utilise beaucoup le terme génocide comme un étendard pour qualifier un événement.
Oui, on mélange tout, absolument.
Oui.
C'était aussi ça dont je voulais parler.
Oui, mais ça, je suis d'accord.
Les questions coloniales et la violence des colonisations et des décolonisations.
Oui, bien sûr.
C'est maintenant ce qui est utilisé.
Oui, c'est juste.
Dans ce qu'on appelle le Grand Sud.
C'est pour ça qu'il faut être rigoureux dans les termes. Et notamment dans le cadre des cours, on a l'occasion d'aborder les critères du génocide. On a l'occasion également d'expliquer aux élèves que ce n'est pas parce qu'un événement n'a pas été juridiquement, parce que le terme génocide, c'est un terme juridique. Donc tout ce qui impose un terme juridique impose des notions très rigoureuses et très précises. Et donc oui, il y a des événements qui ne sont pas des génocides. par rapport à la définition juridique telle qu'elle est donnée par l'ONU en 1948, hein, parce qu'on remonte à ce que l'ONU explique en 1948. Néanmoins, ça peut être des crimes contre l'humanité. Et ce n'est pas parce qu'un événement n'a pas, entre guillemets, et là je suis volontairement provocateur, mais en cours j'utilise la même expression, et je mets des guillemets, donc là on ne le voit pas, c'est de la radio, mais je vais le dire. Donc ce n'est pas parce qu'un événement n'a pas le label, je mets des guillemets au mot label, le label génocide, qu'il n'est pas grave, et qu'il n'est pas non plus sujet à être poursuivi par la justice internationale. Ah, donc le mot génocide, il est connoté, il est borné sur un plan juridique. Il y a des éléments précis. Donc aujourd'hui, on l'utilise parfois à tort et à travers. On a l'impression, pour certaines minorités ou certains groupes, que si on n'utilise pas pour eux le terme génocide, ben, ce qu'ils ont vécu ne vaut rien. Sauf qu'en réalité, si, ce qu'ils ont vécu vaut aussi autant. Génocide, simplement, c'est un terme juridique. Donc si les éléments constitutifs de l'événement répondent à la définition de ce qu'est un génocide, ben, on va donner, le juriste et puis ensuite l'historien, va utiliser ce terme. Si ce n'est pas le cas, l'historien utilisera peut-être l'expression de crime de guerre ou de crime contre l'humanité.
Très bien, je crois que c'est important de repasser par là. Nous étions avec le professeur Dimitri Vouzel, nous avons parlé des pavés de mémoire, puisque pour la deuxième année, la ville de Dijon va installer des pavés de mémoire qui seront inaugurés le 14 mai 2025 par Madame le maire Nathalie Kunders. Merci beaucoup, professeur, pour cet éclairage. Et nous aurons l'occasion de reparler des thèmes que vous avez évoqués lors de cet entretien. À bientôt.
Merci. Thank you.